Chapitre 24. En attendant que Nathan en ait terminé avec André, Nietzsche avait décidé d'assister aux séances du conseil. Une occasion, espérait-elle, de placer quelques commentaires bien sentis sur la bonne façon de gouverner un peuple. Sans grande chance que ça fonctionne, puisque le Douma semblait ne jamais rien décider et se contenter d'interminables bavardages sans objet. En ce sens, seuls Rennes et Quentin avaient consenti à se déplacer. Sans doute parce qu'ils n'avaient rien de mieux à faire. Du coup, les sièges réservés à André, Yvan, Elsa et Damon restaient vides. Mourant d'ennui, la Sovréna pianotait sur les accoudoirs sculptés de son trône. Histoire de passer le temps, Maxime suivait le vol d'une grosse mouche autour de lui. Quand il perdit patience, il libéra son don et l'insecte pétrifié tomba sur le sol comme un petit caillou. Dans l'assistance, personne n'accordait d'attention à Nietzsche. Puis le haut capitaine Avry déboula, un de ses officiers sur les talons. Décomposé comme son compagnon, il se plaqua une main sur le cœur et mit un genou en terre devant les deux dirigeants.
« Sovréna, sorcier en chef, il y a eu un meurtre !»
Nietzsche revint en un éclair au présent. Oubliant l'affaire de la tannerie principale d'Ildakar, qui avait besoin de réparation, un sujet toujours plus passionnant que la couleur du toit d'une grosse fabrique de soie, Rennes et Quentin tendirent l'oreille.
« Un meurtre ?» répéta Maxime, plus intrigué que choqué. « Racontez-nous ça !»
Avry se releva et s'adressa à Thora.
« Lors d'une patrouille, un de mes hommes a été attaqué sur une place, celle de la fontaine aux poissons dansants. »«
Une jolie fontaine !» fit Maxime.
« Silence, mon époux !» ordonna Thora. « Comment cet homme est-il mort ?»«
Une boucherie, madame !»
L'autre soldat intervint.
Il y avait du sang partout. Le lieutenant Kerry a été poignardé plusieurs fois. La gorge ouverte, il...
L'homme ne put pas continuer.
Les blessures ont été infligées avec des éclats de miroir,
dit Avry.
Comment le sais-tu?
Demanda Thora.
Il pourrait tout aussi bien s'agir de couteaux. Après le crime, les tueurs ont enfoncé ces éclats dans les yeux de Kerry.
Avry désigna son compagnon.
C'est le capitaine Trevor qui a trouvé le corps.
Le temps qu'on nous prévienne, il faisait jour,
précisa Trevor. Le visage rond et blême, il semblait rougir très facilement. Retirant son casque, il dévoila des cheveux châtain clair.
Le corps gisait là depuis des heures. Des gens sont passés devant en faisant mine de ne rien voir. Des travailleurs, des marchands ou des esclaves. Kerry était dans la fontaine, vidé de son sang avec des éclats de verre dans les yeux.
Il faudra vider la fontaine et la nettoyer, dit Maxime. « J'aime beaucoup les poissons dansants. Une très belle sculpture. »«
Ces masques miroirs !»
marmonna Rennes en passant un doigt sur sa gorge entre son deuxième et troisième menton.
« Ces partisans et lui deviennent chaque jour plus audacieux. »«
Bien vu !»
dit Thora, blanche de colère.
« Nous devons les écraser !»
La vraie cause des violences, Nietzsche le savait, c'était l'autoritarisme des dirigeants d'Ildakar. À Alterang et dans d'autres villes du Sud, les peuples, là du joug de l'ordre impérial, avaient eux aussi fini par se révolter.
« Si le Conseil lui offrait l'égalité et la liberté, » dit la magicienne, « le peuple n'aurait pas besoin de masques miroirs. »
Les sorciers n'entendraient pas un raisonnement pareil. À leur manière, ils étaient aussi pétrifiés que si Maxime les avait pris pour matière première. Thora foudroya Nietzsche du regard.
« Les sorciers d'Ildakar doivent rester fermes. En ville, il y a beaucoup de détenteurs du don, mais nous sommes les plus forts. Nous devons préserver notre position.
Mais puisque tu brûles d'envie de nous aider, magicienne, nous devons en savoir plus sur toi. En attendant qu'André ait rendu son don à Nathan, nous allons découvrir comment tu peux nous assister.
Je n'ai jamais peur de lutter pour une juste cause, dit Nietzsche. Tout dépend de la vraie nature de l'ennemi.
« N'est-elle pas évidente ?»
lança Quentin.
« Ces chiens ont massacré un garde innocent, en lui enfonçant des éclats de verre dans les yeux. »«
Les gens expriment leur frustration comme ils peuvent. »
lâcha Nietzsche. Elle pensa aux atroces tortures que Jagang infligeait à ses prisonniers, à ses domestiques et à ses amantes dès qu'il en était mécontent. En particulier, elle se souvint d'un serviteur au crâne chauve, n'était une couronne de cheveux noirs.
Alors qu'il portait une carafe du vin préféré de l'empereur, il avait glissé dans le sang d'une pauvre fille que Jagang avait tuée en lui défonçant la tête contre le coin d'une table. La maîtresse de la mort avait regardé tout ça sans broncher, car la colère de l'empereur ne la touchait plus. Quand ça le prenait, il lui arrivait souvent de se défouler sur elle. La fille était plutôt jolie, mais lorsqu'il avait déchiré sa tunique pour la violer, Jagang avait découvert de gros grains de beauté sur ses seins. Révulsé, il lui avait ôté la vie, très vite, sans y prendre plaisir. Le serviteur, en revanche, avait agonisé longtemps. Attaché à un poteau devant le pavillon de l'empereur, il avait dû regarder un chirurgien lui ouvrir le ventre en prenant garde de ne pas le tuer. Puis, le type lui avait introduit plusieurs rats dans le corps avant de refermer l'incision en laissant assez de trous pour que les rongeurs puissent respirer. De quoi les inciter à dévorer les entrailles de leur hôte avant de se lancer à l'assaut de ses poumons et de son cœur. Comparé à ça, Kyo aurait été horrifié par des éclats de verre enfoncés dans les yeux d'un mort. Masque noir met le doigt sur les défauts de votre société, dit Nietzsche. Le meurtre de Kairi et les éclats de verre délivrent un message. Si vous essayez de comprendre pourquoi le peuple est mécontent, les violences cesseront peut-être.
Elles cesseront sûrement quand nous aurons capturé Masque Miroir, dit Maxime.
Si c'est possible.
Tora se leva et descendit de l'estrade.
Suis-moi dans mon solarium, Nietzsche. Nous allons parler de tes aptitudes.
À condition que nous évoquions aussi les vôtres, dit la magicienne. Les sorciers d'Ildakar n'utilisent pas le don comme chez nous. Maxime bondit sur ses pieds.
Je vous accompagne.
Tora s'empourpra.
Et que crois-tu apporter à la conversation?
Mon charme confondant.
Maxime agita vaguement la main.
Avery, va nettoyer toutes ces cochonneries dans la jolie fontaine. À tout hasard, ordonne à tes hommes de capturer les meurtriers, qui sait, ils auront peut-être plus de chance qu'avec tes trois crimes précédents.
C'est le quatrième meurtre?
S'étonna Nietzsche.
Que veux-tu?
Lâcha Maxime.
Ildakar est une grande ville.
Dans le solarium de Tora, les murs étaient couverts de fresques florales et de scènes champêtres où des femmes et des hommes nus batifolaient dans des plaines et des bosquets. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Tora passa un moment devant des cages où se massaient une bonne vingtaine d'alouettes.
« Leur chant est parfait, » dit-elle. « Et les regarder suffit à m'apaiser. »
La sauvrena coula un regard en coin à Nietzsche.
« Ces oiseaux vivent en cage. Ils font ce qu'on leur demande et ne provoquent une frustration. »
« Ils te l'ont dit de vive voix ?» ironisa la magicienne.
« Je l'entends dans leur trille. S'ils étaient malheureux, ils ne chanteraient plus. »
Jagang, lui, adorait entendre crier ses victimes.
« Et s'ils exprimaient leur tristesse? Des cris de désespoir que tu prends pour un chant ?»
La souveraine se rembrunit.
« Tu es notre invité, tu continues à nous critiquer.
Je suis ici à cause de mon ami Nathan. » Dès que le sorcier de chair lui aura rendu son don, nous partirons.
Maxime arriva sur ses entrefaites, suivi par des serviteurs aux bras lestés de plateaux. Un déjeuner sur le pouce, version Ildakar. Poisson au four aux herbes, pain au raisin et vin de sang à volonté. Le sorcier en chef se servit le premier, découpant soigneusement un filet de poisson, puis il s'assit pour manger.
Bientôt nous réactiverons le linceul. Tu ne veux pas rester avec nous?
D'ici là, nous serons loin.
Maxime eut un haussement d'épaule fataliste.
Quand notre ville sera de nouveau en sécurité, dit Tora, nos coutumes ne heurteront plus ta sensibilité.
Elle se servit de poisson.
Pour l'instant, nous devons affronter des rebelles sans foi ni loi. Si j'ai bien compris, tu maîtrises le feu de sorcier. C'est rare pour une magicienne. Quels autres sorts peux-tu lancer?
Tous ceux qui s'imposent dans une situation donnée. J'ai pris beaucoup de compétences aux sorciers que j'ai tués. En outre, j'ai étudié auprès des sœurs de la lumière et de leurs ennemis jurés, les sœurs de l'obscurité.
La magie soustractive, donc, fit Maxime. C'est très inhabituel, ça.
Tu as servi le gardien et notre façon de vivre te choque,
s'indigna Tora.
J'étais dans l'erreur. Aujourd'hui, je lutte pour le seigneur Ral et son nouvel âge d'or. Une ère de liberté, de prospérité pour tous.
Aussi débile qu'impossible,
lâcha Tora.
Son assiette à la main, elle alla tapoter les barreaux des cages et les oiseaux lui offrirent un doux concert.
« Tu as peut-être raison, » souffla-t-elle. « Mais même s'ils chantent parce qu'ils ont peur, leur musique est agréable à mes oreilles. »
Nietzsche prit du poisson et du pain. Après avoir fait le service du vin, Maxime but une longue gorgée.
« À part ça, où as-tu appris la magie? As-tu eu d'autres professeurs, des grimoires ?»«
Non. J'ai tiré les enseignements idoines de la vie. Avec chaque défi, je suis devenue plus forte et plus créative. Face à un adversaire redoutable, je choisis soigneusement mes armes. »
Soudain sinistre, Nietzsche pensa à la pauvre Chardon et à la flèche empoisonnée avec le sang de son cœur. Puis elle ajouta
« Et certaines sont terrifiantes. »
« Bannon, ton ami, a parlé d'une grande bibliothèque magique. »
Maxime eut un demi-sourire.
« C'est vrai ?»«
Surplomb du monde, »
intervint Thora.
« Un trésor dissimulé à l'époque des Grandes Guerres. »
Un signal d'alarme retentit dans la tête de Nietzsche.
« Bannon vous a parlé de ça ?»«
À notre fils, en fait, » dit Maxime. « C'est très excitant. Il faudra que nous enquêtions. »
Il haussa le ton.
« Qu'on aille chercher Rennes. Dites-lui que je veux le voir. »
Un serviteur partit au pas de course.
« Que lui veux-tu à Rennes ?»
demanda Nietzsche.
« C'est l'érudit le plus pointu du Douma, » répondit Maxime. « Et le plus inutile. » « Il sera fasciné par Surplomb du monde, je te l'assure. Tu lui indiqueras le chemin. »«
Ces trésors ont été cachés pour une raison. »«
Oui, oui. Dans des canyons, de l'autre côté de Colader. Même sans toi, ça ne devrait pas être dur à trouver. »
Étudiant les pins, Thora ne sembla pas trouver la cuisson à son goût.
« Nos livres d'histoire ont gardé trace du moment où les antiques sorciers ont soustrait au monde des connaissances pour empêcher Soulacan de les détruire. Nous pensions que Surplomb du monde était perdu. »«
Là, » dit Maxime, « nous aurons intérêt à le retrouver, histoire de découvrir toutes les merveilles qu'on y garde. »«
Ces connaissances sont dangereuses, »
rappela Nietzsche.
« Par manque d'expérience, les érudits ont failli détruire le monde, au moins à deux reprises. »
« Raison de plus pour leur envoyer des experts. »
Rennes arriva au pas de course, se dandinant comiquement à cause de ses jambes trop courtes pour son torse. Les yeux rivés sur Maxime, Thora lui sourit.
« C'est extraordinairement rare, mais je suis d'accord avec mon mari. Rennes, nous avons une mission pour toi. Au-delà de Colader, il y a un endroit nommé Surplomb du monde. Des archives magiques fantastiques, paraît-il. » Organise une expédition et retrouve ce site. Nietzsche te fournira les indications requises. Rennes ne trouvera jamais,
dit la magicienne, les poings plaqués sur les hanches.
Cet endroit est dissimulé depuis des millénaires.
Mais son sort de camouflage est désactivé, tu l'as dit toi-même.
Maxime désigna Rennes.
Une fois les montagnes traversées, Rennes ne devrait pas avoir trop de mal à trouver.
À la fois fasciné et effrayé, le sorcier parvint à se ressaisir.
Trouver une nouvelle bibliothèque, c'est mon rêve. En 15 siècles, j'ai lu tous les livres disponibles ici, mais si ces archives sont dans le monde extérieur, eh bien, ça risque d'être dangereux.
Dans ce cas, grogna Maxime,
prends une escorte. 10 hommes armés jusqu'aux dents, par exemple. Tiens. Pourquoi pas avoir pour chef le capitaine Trevor ?
Ici, il n'est pas très utile,
renchérit Thora.
Ce type a trop peur du sang. Qu'il commande donc le détachement. Selon moi, votre plan n'est guère avisé,
dit Nietzsche. Thora rosit de colère.
Tout ce que nous faisons te déplaît. Pourtant, Ildakar n'a pas eu besoin de toi pour survivre. Mais qu'importe, la décision me revient. Reine, voici tes ordres. Trouve Surplomb du monde et détermine ce qui pourrait nous être utile. Ces trésors nous ont été volés il y a 3000 ans. Il est temps qu'on nous les rende.
Mais, Sovréna,
balbutia Rennes. Il s'essuya le front d'un revers de la main qu'il passa ensuite sur le devant de sa tunique.
Le lacel sera bientôt réactivé, s'il redevenait permanent pendant mon absence.
Maxime vida son gobelet.
Dans ce cas, dit-il, « nous t'en voudrons de ne pas être revenu à temps avec les merveilles de Surplomb du monde. »
Après s'être resservi de vin, il remplit à ras-bord le gobelet de sa femme, puis fit la moue en constatant que Nietzsche n'avait pas touché au sien.
« File, reine, ce n'est pas le moment de traîner. »
Le sorcier détala sans demander son reste.